on ne sort pas indemne d'une plongée profonde dans le Paris de Balzac. Car dès lors, comment passer rue Cassette sans une pensée pour Carlos Herrera? Comment éviter rue Têtebout le fantôme d'Esther? Comment grimper la rue Tournefort sans chercher furtivement la maison Vauquer? C'est que la relation de Balzac avec Paris est unique. D'autres grands auteurs ont écrit sur Rome, Berlin ou Londres et aussi sur Paris. Mais aucun n'aurait osé dire quelque chose comme « Il y a pour moi des souvenirs à toutes les portes, des pensées à chaque réverbère. Il ne s'est pas construit une façade, abattu un édifice que je n'en ai épié la naissance ou la mort. Je participe au mouvement immense de ce monde comme si j'en avais l'âme. » Et le grand Balzac continue, encore plus impérial. Les boulevards sont à moi l'ombrage des Tuileries, les lilas du Luxembourg, à moi les jeunes colonnades du Palais-Royal. Ah, personne ne connaîtra si bien que moi les heures délicieuses où Paris s'endort, où le dernier roulement d'un carrosse retentit, où les chants des compagnons cessent. Personne ne connaîtra si bien que moi, admirable futur, magnifique mégalomanie. Et la suite lui a donné raison.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Plus que dans la recherche où Proust ne s'aventure guère en dehors du Faubourg Saint-Germain et de la plaine Monceau, le Paris en pleine révolution du XIXe siècle, c'est dans la comédie humaine qu'il s'incarne le mieux à travers les centaines de personnages racontés par Balzac. Témoin des destructions et de la rénovation de la capitale, l'écrivain en a fait l'âme de sa gigantesque fresque sociale et humaine. « J'ai toute une société dans ma tête », disait-il. Mais pour lui, celle-ci n'existait qu'à Paris, dans les rues et les quartiers, que les infranchissables frontières sociales de l'époque assignaient à ses protagonistes. Infatigable arpenteur des rues parisiennes, tantôt à pied, tantôt sur son vélo, auteur de l'indispensable Invention de Paris qui ne cesse d'être réédité depuis 2002, ainsi que d'autres récits historico-amoureux de ses déambulations érudites dans sa ville, Éric Hazan est évidemment un Balzacien convaincu. Et il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il fasse de l'auteur du Père Goriot le plus grand romancier français. Son dernier livre, Balzac Paris, qui vient de paraître à la Fabrique, est un régal qui donne envie d'aller, comme le fit Rastignac, au Père Lachaise pour contempler la ville et en profiter pour relire Ferragus, qui est l'opus qu'il préfère. Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez commencé à vous balader dans Paris avant Balzac ou est-ce que c'est Balzac qui vous a poussé à le faire de cette manière-là, c'est-à-dire l'œil aux aguets?
Oh, je crois que j'ai commencé à arpenter Paris avant de lire Balzac.
Et Balzac a apporté un plus à ces déambulations?
Certainement. Certainement, oui, j'ai commencé à arpenter Paris, j'ai l'impression, le dimanche matin avec mon père, quand j'étais petit. On pouvait à l'époque faire des promenades thématiques. On pouvait faire une promenade Les Misérables dans le 13e arrondissement. Une promenade Balzac, c'est plus compliqué parce que il reste rien.
Rien ?
La maison de Balzac à Passy, le musée Balzac.
Juste à côté.
Juste ouais. À côté, à deux pas d'ici. Ici étant la maison de la radio.
Oui.
Mais autrement, non. Tout est soit démoli, soit dénaturé. Dénaturé, je veux dire, le Faubourg Saint-Germain, évidemment, les grands hôtels admirables n'ont pas été démolis, mais on n'y trouve plus la Duchesse de Langeais ou Antoinette de Maufrigneuse, on va plutôt y trouver des sous-secrétaires d'État au ministère des Anciens Combattants, c'est pas pareil, ça change beaucoup l'atmosphère.
Oui, et en même temps, Balzac, il ne décrit pas vraiment. On a l'impression, quand on lit Balzac, alors c'est ça qui est extraordinaire, le lecteur a l'impression qu'il a tout vu. Que dans la rue précise qu'il cite, on voit la pension Vauquer, on voit comment elle est, on sait où c'est. On a l'impression d'être passé devant. Et en fait, vous dites, il ne décrit pas, ce n'est pas une enquête historique, pourtant, comme le disait Louis Chevalier, un document historique. C'est quoi, en fait, les descriptions de Paris faites par Balzac?
C'est vrai qu'il décrit pas, par exemple, quand il parle d'un quartier, il va pas en tracer les limites. par exemple le quartier latin ou la chaussée d'Antin, il va pas dire c'est entre les grands boulevards et la rue de Saint-Lazare. Non, non, il dira pas ça. Il ne va pas non plus décrire globalement les traits architecturaux d'un quartier. En revanche, il procède un peu de façon métonymique. Il va prendre une maison. S'il veut décrire le quartier latin, il va prendre, par exemple, la maison où habite Gobseck, le grand usurier de la comédie humaine. Personnage curieux d'ailleurs, qui n'est pas complètement odieux, pas du tout, qui est effrayant mais pas odieux. Il va prendre cette maison de Gobseck qui se trouve rue des Grès. La rue des Grès, c'est une rue qui suivait à peu près le trajet actuel de la rue Cujas. Et il va la décrire. Et elle va servir d'étalon. Cette description attentive va montrer la saleté, la misère, la pauvreté de tout le quartier.
Parce que le quartier latin, chez Balzac, c'est un quartier de miséreux, d'étudiants fauchés et de très très grande misère. En fait, chaque quartier décrit par Balzac a une fonction, j'allais dire, presque économique, socio-économique.
Oui.
N'habitent dans certains quartiers que les gens dont la profession ou le niveau de richesse leur permet d'habiter là. C'est assez démarqué, comme s'il y avait des frontières.
Qui ne sont pas dessinées, mais qui sont très claires. Le Marais, par exemple, le Marais de Balzac, qui connaît bien parce qu'il y a passé son adolescence avec ses parents. Le Marais, c'est un quartier d'une bourgeoisie ni riche ni pauvre, besogneuse, digne, propre, conservatrice. C'est le cousin Ponce. Voilà, le cousin Ponce est typique. Le cousin Ponce qui est un collectionneur et surtout, il gagne sa vie comme étant chef d'orchestre dans ses petits théâtres qui était Boulevard du Crime, et ces théâtres avaient un orchestre. Et lui était chef d'orchestre d'un de ces théâtres. C'est un tout petit métier, cousin Ponce. Voilà, c'est vraiment typiquement un habitant du Marais. Alors que dans le Faubourg Saint-Germain, c'est la vraie aristocratie, celle dont les ancêtres étaient aux croisades. Alors qu'à la chaussée d'Antin, c'est les Richards. C'est les nouveaux riches.
Les banquiers.
Les banquiers.
Et les filles qu'ils entretiennent.
Voilà, voilà, les Lorettes. Les Lorettes qui sont chères au cœur de Balzac. C'est ces femmes qui sont jeunes et jolies, et drôles, et malignes, quoi. Et qui sont chanteuses, ou même cantatrices d'opéra, danseuses, équilibristes, ou simplement femmes entretenues. Et Balzac les aime parce que, il le dit, il dit qu'elles sont bienveillantes. Et c'est vrai que ces femmes-là, à l'inverse des duchesses du Faubourg Saint-Germain, qui peuvent être très belles et très intelligentes, mais qui sont quand même des salopes, ces femmes-là sont bienveillantes, elles sont capables de dévouement. Par exemple, Corinne dans Illusion perdue, Corinne, elle va, pour sortir de la mouise son cher Lucien, elle va déménager de son bel appartement de la rue Vendôme vers un boui-boui rue de la Lune, elle va vendre tout ce qu'elle a. Et dans Une fille d'Ève, pareil, Florine, qui est une actrice, eh bien, pour que son voyou de Nathan puisse fonder son journal, elle vend tout ce qu'elle a. Et elle fait une grande fête avec tous les amis, où il n'y a plus les bougeoirs luxueux, il n'y a plus rien, il y a plus, on mange carrément dans des assiettes en papier, parce qu'elle a tout vendu, et elle fait ça, et avec ça, il va soi-disant faire un journal.
Alors, ce qui est formidable dans Balzac, c'est qu'en fait, les quartiers, les rues, ont une âme, celle des personnages de la comédie humaine qui y habite. On va écouter, lu par Michel Bouquet, donc c'est pas rien, oui, un passage de Ferragus, que vous aimez particulièrement, Éric Hazan, sur les rues, l'âme des rues.
Il est dans Paris, certaines rues déshonorées, autant que peut l'être un homme coupable d'infamie. Puis, il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues, sur la moralité desquelles le public ne s'est pas encore formé d'opinion. Puis des rues assassines. Des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles. Des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales. Des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, Les rues de Paris ont des qualités humaines et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Il y a des rues de mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas demeurer et des rues où vous placeriez volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la Paix est une large rue, une grande rue, mais elle ne réveille aucune des pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impressible au milieu de la rue Royale, et elle manque certainement de la majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez dans les rues de l'île Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse nerveuse qui s'empare de vous qu'à la solitude, à l'air morne des maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fermiers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse est babillarde, active, prostituée. Elle n'est belle que par un clair de lune à 2 heures du matin. Le jour, c'est un abrégé de Paris. Pendant la nuit, c'est comme une rêverie de la Grèce. La rue traversière Saint-Honoré n'est-elle pas une rue infâme? Il y a là de méchantes petites maisons à deux croisées, où d'étage en étage se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroites exposées au nord, où le soleil ne vient que 3 ou 4 fois dans l'année, sont des rues assassines, qui tuent impunément. La justice d'aujourd'hui ne s'en mêle pas, mais autrefois, le Parlement eut peut-être mandé le lieutenant de police pour le vitupérer à ses causes.
Éric Hazan, en fond, quand on écoute cette prose incroyable de Balzac, on se dit que vous avez raison. Pour vous, c'est vraiment le plus grand écrivain français.
Le fondateur de la littérature moderne, je crois.
Alors, plus, vous êtes plus Balzac que Proust.
Ah, non, c'est pas incompatible. Il y a beaucoup de liens entre eux. Proust connaissait la comédie humaine quasiment par cœur. Et il a pris chez Balzac des procédés. Il y a quelque chose, par exemple, qui est très commun entre eux, qui est vraiment commun entre eux, c'est l'attention portée au nom des personnages. Vous avez dit très justement qu'il ne décrit pas, et c'est vrai. Eh bien, quand il a envie de montrer ce que c'est que le Faubourg Saint-Germain, il va énumérer des personnages de la comédie humaine, tous fictifs, pendant une demi-page. Et ces noms sont si bien choisis, si évocateurs, si poétiques, que ben ça y est, on y est. Proust le fait aussi, ça. Proust portait une grande attention au nom de ses personnages, qui sont presque devenus archétypiques. Hein. Quand on dit Swann, quand on dit Verdurin, quand on dit c'est un personnage à la Charlus, oui. Et ben voilà, on sait
on
très
dit
bien.
On dit bien Rastignac, toujours.
Oui. La duchesse de Langeais, Vautrin, c'est ça. Le point commun qui me semble les rapprocher, c'est vraiment une très grande attention au nom des personnages. Balzac, il y a un ami à lui, le raconte, il pouvait passer un après-midi entier à marcher dans Paris pour chercher un nom. L'autre, il n'en pouvait plus, il avait mal aux pieds, et jusqu'au moment où il dit « Ah, voilà, ça y est !» Et il voit le nom, c'est Marcas. Marcas, voilà, c'est ça. Formidable, c'est formidable.
Pour aller à Sorène ou bien à Charenton, on passait sur les ponts. Pendant les jours suivants, son cours, tu pars et en bas tu défiles. Le corps plein d'un train, ça va, ça vient. Mais le soir, lorsque tu dors tranquille, sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, tu te sors tes gueux et faufiles ton cachette. Ils sont heureux d'être vivants en couchette. Hôtel de Courandelle, où l'on ne paye pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sur les ponts de Paris.
À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il, la ronquine? C'est la fête aujourd'hui.
Prends ce bouquet, ce brun muguet, c'est peu, mais ce titre ma fortune.
Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune.
Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'est pas de quoi se payer, on chambrette, on coupe le revient samedi en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, joue au partage les baisers de Nini sur les ponts de Paris.
Rongé par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère avec ses trois petits.
Ces observations, incompréhensibles au-delà de Paris, seront sans doute saisies par ces hommes d'études et de pensée, de poésie et de plaisir, qui savent récolter en flânant dans Paris la masse de jouissances flottantes à toute heure entre ses murailles, par ceux pour lesquels Paris est le plus délicieux des monstres. Là, jolie femme, plus loin, vieux et pauvre. Ici, tout neuf, comme la monnaie d'un nouveau règne, dans ce coin, élégant comme une femme à la mode, monstre complet d'ailleurs. Ces greniers, espèces de têtes pleines de science et de génie, ces premiers étages, estomacs heureux, ces boutiques, véritables pieds, de la part de tous les trotteurs, tous les affairés. Eh, quelle vie toujours active à le monstre! À peine le dernier frétillement des dernières voitures de bal s'est-il au cœur, que déjà ses bras se remuent aux barrières, et il se secoue lentement. Toutes les portes bâillent, tournent sur leurs gonds, comme les membranes d'un grand homard. Invisiblement manœuvré par 30 000 hommes ou femmes, dont chacune ou chacun vit dans 6 pieds carrés, y possède une cuisine, un atelier, un lit, des enfants, un jardin, n'y voit pas clair et doit tout voir. Insensiblement, les articulations craquent, le mouvement se communique, la rue parle. À midi, tout est vivant, les cheminées fument, le monstre mange, puis il rugit, puis ses 1000 pattes s'agitent. Beau spectacle. Mais, ô Paris, qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes cul-de-sac profonds et silencieux, qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2 heures du matin, ne connaît encore rien de ta vraie poésie, ni de tes bizarres et larges contrastes. Il est un petit nombre d'amateurs, de gens qui ne marchent jamais en écervelés, qui dégustent leur Paris, qui en possèdent si bien la physionomie qu'ils y voient une verrue, un bouton, une rougeur. Pour les autres, Paris est toujours cette monstrueuse merveille, étonnant assemblage de mouvements, de machines et de pensées, la ville aux 100 000 romans, la tête du monde. Mais pour ceux-là, Paris est triste ou gai, laid ou beau, vivant ou mort. Pour eux, Paris est une créature. Chaque homme, chaque fraction de maison est un lobe de tissu cellulaire de cette grande courtisane de laquelle ils connaissent parfaitement la tête, le cœur et les mœurs fantasques.
Eric Hazan, encore un extrait de Ferragus. En fait, Balzac connaissait Paris parce qu'il l'arpentait à pied,
toujours
essentiellement.
Toujours à pied.
Il courait d'un imprimeur à un éditeur. Il cherchait de l'argent sans arrêt. Et en fait, c'est très étrange parce qu'il a une mémoire, une sorte de mémoire photographique. Parce qu'en fait, il ne court pas les rues pour prendre des notes ses romans.
Non.
Il emmagasine.
C'est ça. Il a une mémoire photographique. Je crois que c'est tout à fait exact le terme. Parce que on sait quand il est allé, par exemple, à Issoudun ou à Guérande, là, c'est documenté. On sait qu'il y était en telle année. Et on sait qu'il a écrit Béatrix ou La Rabouilleuse, qui se passe dans ces deux villes, qui démarre dans ces deux villes. Il les a écrits 25 ans plus tard. Et il raconte ces villes comme s'il les avait vues la veille. Il n'y est pas retourné. On sait qu'il n'y est pas retourné. Donc, une mémoire incroyable. Une mémoire des détails et des ensembles. Quand on dit flâner, Quelqu'un qui, en pas si longtemps, en 20 ans, écrit 12 tomes de la Pléiade, le temps de flânerie est forcément limité.
15 heures par jour d'écriture.
Voilà. Donc, quand il dit flâner, c'est vivre, c'est pas du tout un flâneur comme pouvait être flâneur un Baudelaire. C'était un type qui marchait dans Paris et qui, de temps en temps, s'arrêtait, regardait et rêvait et repartait.
Alors, mémoire photographique des quartiers, des rues, des visages, des noms, mais absente énorme de la comédie humaine, la politique. Les événements politiques ne sont pas rapportés.
Non.
Vaguement un brouhaha.
Au détour d'une phrase.
Au détour d'une phrase. Et alors, je me disais, vous, Éric Hazan, pour qui, dans l'invention de Paris et vos livres dans Paris, c'est aussi une mémoire des événements révolutionnaires de Paris, du Paris en colère, c'est assez étonnant que ce côté-là de Balzac ne vous ait pas agacé, manqué.
Non, c'est vrai, celui qui attendrait de la comédie humaine un tableau historique de Paris de 1825 à 1845...
Et pourtant, il s'en est passé des choses.
Eh oui, il s'est passé des choses...
Mais d'ailleurs, les ouvriers ne sont pas des personnages à part entière dans la comédie humaine.
Et les quartiers populaires non plus, en dehors du colonel Chabert qui est au Faubourg Saint-Marceau, qui quand même est carrément tout seul.
Mais c'est un déclassé.
Oui. Et des personnages qui habitent le Faubourg Saint-Antoine, il y en a très peu. Il y a juste une longue nouvelle ou petit ou court roman qui s'appelle Facino Cane, qui se passe de l'autre côté de la place de la Bastille, dans le Faubourg Saint-Antoine, en milieu ouvrier. Enfin, sur les 12 tomes de la Pléiade dont on parlait tout à l'heure...
Ça fait pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Mais d'ailleurs, Balzac était un réactionnaire revendiqué.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand il prend la parole, ou quand il la donne à un personnage, pour exprimer ce que lui-même pense, il dit, il faut un ordre social stable, dont les deux conditions sont la religion et la monarchie. Après, faut voir quelle religion. Parce que Balzac mettait jamais les pieds à l'église, sinon pour les mariages ou les enterrements. La comédie humaine est à l'index du Vatican.
Oui, régulièrement dénoncé pour son immoralité.
Voilà. D'ailleurs, quand ces livres paraissaient en feuilleton, à partir de 1835-36, pratiquement tous les romans de Balzac sont sortis en feuilleton dans l'un des deux grands quotidiens, Le Siècle ou La Presse. Et il y a des lettres de Girardin, qui était le propriétaire de La Presse, en lui disant « Balzac, ça suffit, j'ai 15 000 abonnés, la plupart en province, et parmi eux, beaucoup de femmes. Alors vos histoires d'adultère, d'enfants illégitimes, ça suffit. Ça suffit, j'ai des plaintes, des gens qui se désabonnent. » Alors, Balzac, c'est rigolo, dans une des préfaces, je crois que c'est une préface tardive du Père Goriot, j'en suis pas sûr, mais dans une de ses préfaces, il fait un tableau sur deux colonnes, à gauche les femmes vertueuses, et ces femmes, disons, qui ont fauté. Et il les énumère, il les montre, et il dit, vous voyez bien...
Que j'en ai plus de vertueuses.
Oui, qu'il y a plus de vertueuses que de fautives.
Oui, mais c'est aussi ce qui se transparaît à travers la comédie humaine qui devait choquer les bien-pensants à l'époque, Éric Hazan. C'est que, pour lui, l'explication de fond aux faits et gestes de ces personnages, qu'ils soient du Faubourg Saint-Germain ou dans le pauvre quartier latin, c'est la recherche de l'argent et du plaisir.
L'or et le plaisir. C'est le mantra du début formidable de La fille aux yeux d'or. Sur plusieurs pages, ça revient l'or et le plaisir, l'or et le plaisir, l'or et le plaisir.
Et en même temps, l'or et le plaisir, Balzac savait très bien de quoi il parlait, parce que c'était ses propres ressorts de vie également. La recherche éperdue de l'or, alors non pas pour devenir...
Mais en fait, pour combler les dettes.
Oui, enfin, il avait quand même des goûts de luxe, parce que même criblé de dettes, monsieur ne pouvait vivre que dans le satin et le bon vin.
Et dès qu'il arrivait dans un de ses appartements, après avoir quitté le précédent sous la pression des créanciers, il arrivait dans le nouveau et il faisait abattre des murs, tapisser des... Enfin, il faisait des dépenses. Il dépensait énormément et tout ce qu'il faisait pour gagner de l'argent tournait en son contraire. On peut dire... Là, vraiment, pour ce qui est du sens des affaires, Balzac, il n'était pas bon.
Il a accumulé les faillites, ça on le sait. Et en plus, il ne gagnait pas d'argent avec ses livres. il n'arrivait pas à se remplir les poches et il s'est mis à devenir écrivain de théâtre exécrable. Il faisait d'horribles pièces de théâtre.
Il le faisait sans les faire d'ailleurs. Enfin, autant cet homme qui était d'un perfectionnisme insensé pour tout ce qui concernait son travail de romancier.
Trois jeux d'épreuve à chaque fois corrigé.
Capable de persécuter les éditeurs pour une virgule ou pour une feuille d'épreuve qui lui manquait. Eh bien, en matière de théâtre, là, il faisait n'importe quoi. Théophile Gautier raconte qu'un jour, il réunit quatre ou cinq de ses amis le soir et il leur dit, voilà, demain, il faut que je fasse une lecture à Harel, qui était le directeur de la Porte Saint-Martin, d'un drame en cinq actes. Alors les autres se mettent dans leur fauteuil avec leurs cigares en disant « Mais vous voulez sans doute avoir notre avis ?» Et dit « Non, le drame n'est pas fait. » Alors ils se regardent et disent « Mais alors il faut retarder la lecture. » Il dit « Non, c'est pas possible, j'ai besoin d'argent. » Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il répartit entre les présents les actes. Et il leur dit, toi, tu feras celui-là. Toi. Et à ce moment-là, Gautier lui dit quand même, il faudrait nous dire un peu de quoi il s'agit, le sujet. Ah, dit Balzac, s'il faut que je vous raconte le sujet, alors on n'aura jamais fini.
Effectivement, il n'était pas inspiré pour la scène, mais toujours inspiré pour la description des rues de Paris.
Entre la barrière d'Italie et celle de la santé, sur le boulevard intérieur qui mène au Jardin des Plantes, il existe une perspective digne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur les jouissances de la vue. Si vous atteignez une légère éminence à partir de laquelle le boulevard, ombragé par de grands arbres touffus, tourne avec la grâce d'une allée forestière verte et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de fabriques à demi-villageoises, clairsemées de verdure, arrosé par les eaux brunes de la Bièvre ou des Gobelins. Sur le versant opposé, quelques milliers de toits, pressés comme les têtes d'une foule, recèlent les misères du faubourg Saint-Marceau. La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et mélancolique du Val-de-Grâce, dominent orgueilleusement toute une ville en amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement dessinés par des rues tortueuses. De là, les proportions des deux monuments semblent gigantesques. Elles écrasent et les demeures frêles et les plus hauts peupliers du vallon. À gauche, l'observatoire, à travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d'inexplicables fantaisies, apparaît comme un spectre noir et décharné. Puis, dans le lointain, l'élégante lanterne des Invalides flamboie entre les masses bleuâtres du Luxembourg et les tours grises de Saint-Sulpice. Vu de là, des lignes architecturales sont mêlées à des feuillages, à des ombres, sont soumises aux caprices d'un ciel qui change incessamment de couleur, de lumière et d'aspect. Loin de vous, les édifices meublent les airs. Autour de vous serpentent les arbres ondoyants des sentiers campagnards. Sur la droite, par une large découpure de ce singulier paysage, vous apercevez la longue nappe blanche du canal Saint-Martin, encadrée de pierres rougeâtres, paré de ses tilleuls, bordé par les constructions vraiment romaines des greniers d'abondance. Là, sur le dernier plan, les vaporeuses collines de Belleville, chargées de maisons et de moulins, confondent leurs accidents avec ceux des nuages.
Parmi ses contemporains, Baudelaire s'y est pas trompé. Hein. Baudelaire se trompait rarement, d'ailleurs, oui. Que ce soit pour les tableaux ou pour les écrivains. C'était vraiment... Lui, il trouve que Balzac, c'est exceptionnel. D'ailleurs, bon point pour Balzac, Sainte-Beuve le déteste, donc c'est plutôt bon signe aussi.
Oui, oui.
Et Théophile Gautier, son ami, lui, il va plus loin parce qu'il dit, en fait, c'est vraiment la modernité de l'écriture. En quoi est-ce qu'à cette époque-là, cette écriture que l'on vient d'entendre, elle était caractéristique d'une modernité ?
Je pense que c'est une modernité au sens baudelairien du terme, même si c'est pas la même génération. Baudelaire est bien plus jeune que Balzac, bien qu'ils se soient croisés certainement. Mais la modernité baudelairienne, finalement, c'est introduire dans Les Fleurs du Mal, et encore plus dans le Spleen de Paris, des mots de tous les jours, des éléments de tous les jours. Et Balzac, il a fait ça. Si on prend Quel serait le grand roman, un grand roman d'un grand écrivain à peu près contemporain? Ce serait peut-être, par exemple, Adolphe de Benjamin Constant. C'est un peu avant, mais pas.
Oui, c'est un peu avant.
Un peu avant. Dix ans.
Restauration, c'est un peu.
Oui. Disons une dizaine d'années avant les Chouans, fin des années 1810. Mais enfin, c'est quand même la même époque. Eh bien, dans cet excellent roman, on est dans l'univers de Manon Lescaut. On est encore en plein 18e siècle. Tandis que Balzac, non, Balzac, il parle pour son temps. Il parle de gens de son temps pour des lecteurs de son temps.
Puis on y parle d'argent. Oui. Alors que dans Adolphe, on ne parle pas d'argent.
Ah non.
C'est mal élevé.
Oui.
Et alors, on sait que vous aimez Ferragus par-dessus tout. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Balzac, pour commencer, être appâté et enfiler tous les autres à la suite.
Alors, il y a plusieurs portes. Il y a la filière de l'histoire des 13, Ferragus, la duchesse de Langeais, la fille aux yeux d'or. Ça, c'est une porte magnifique. Il y a le père Goriot, qui est aussi une porte magnifique parce que c'est une espèce de, comment dire, de point de convergence ou de divergence, enfin ça dépend comment on l'entend, de la comédie humaine. Ou troisième possibilité, l'axe, car là c'est vraiment un axe, Illusion perdue, splendeur et misère. Je pense que celui qui rentre là-dedans n'en sort pas, on en sort modifié.
Eh bien, en tout cas, Éric Hazan, c'est un bonheur de parler avec vous de Balzac et de Paris, parce que vous connaissez bien et vous donnez envie. Et d'ailleurs, votre livre, Balzac, Paris, qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique, est un livre qu'il faut hautement recommander à tous les amoureux de la marche à pied, de la lecture. Et ça fait beaucoup parmi ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Éric Hazan.
Merci.
Au revoir, à bientôt. C'est fini pour l'humeur vagabonde de cette semaine. Nous nous retrouverons samedi prochain, si vous le voulez bien. Bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.
Bien entendu. Merci à vous, Kathleen Evin. Donc, à samedi prochain sur France Inter, dès 19h20, bien sûr.